Merci beaucoup et merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Moi, j'ai été, quand Thierry Nodia, notre ami prof de cinéma, qui est actuellement à Dakar, d'ailleurs, pour les besoins de son travail, m'a contacté pour me demander si j'étais prêt à animer cette rencontre. J'étais très, très honoré et très content parce que Boris est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et quand je le dis, c'est même plus que ça. C'est à la fois un frère en âge, mais aussi un frère en pensée, comme je dis. Et on a toujours besoin, en fait, d'avoir un grand frère. Alors moi, je n'ai jamais eu de grand frère et je me revois à chaque fois dans son parcours et chaque fois, j'essaie de rattacher comme une sorte de miroir dans ce qu'il fait. Voilà, j'essaie de marcher et vraiment, je suis très, très honoré d'être là. Alors, et tout simplement pour vous dire que quand il a fallu chercher à le présenter, en fait, j'ai triché. J'étais tombé sur un texte, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais intervenu en Italie et c'est Liana Nissim, en 2009, voilà, qui parle de toi. Et j'ai trouvé des choses qu'elle a dites qui sont intéressantes. J'ai envie de partager ça avec vous. Bien sûr, on sait, pour ceux qui connaissent Boubacar Diop, qu'il est né à Dakar en 1946, à une époque d'ailleurs où l'Afrique était encore soumise au joug colonial. Il a passé son enfance à Thiès. Moi, j'habite à Ouane, j'ai vu à Saint-Louis, il enseigne actuellement à Saint-Louis. Vous voyez, chaque fois, j'essaie de rattacher des choses à moi. Et il a vécu son enfance à Thiès et dans le quartier de la Croix de la Médina, qui fête d'ailleurs apparemment ses 100 ans cette année. Voilà. Tout petit, il a été charmé par les contes que lui narrait sa mère. Alors, j'ai appris. Alors, on va faire comme ça des petites choses. Que Tilène, en fait, c'est le monde des tils, des chacals. Voilà, le marché Tilène. C'est super, ça, en termes de langue. Et tu dis, lorsque j'étais gamin, ce qui est à l'origine de ma vocation d'écrivain, c'est que j'entendais beaucoup de contes et qu'ils avaient sûrement un très fort impact. J'étais très impressionné par les contes que j'entendais et ces contes étaient dits par une conteuse, ma mère. Le père de Boris Diop, qui était fonctionnaire de l'administration coloniale, disposait d'une riche bibliothèque qui a permis au futur romancier d'être avant tout un très grand lecteur. Chose rare parmi les intellectuels sénégalais de sa génération, Boubacar Boris Diop a fait toutes ses études au pays et n'a jamais vécu ni étudié ailleurs. Plus tard, il vivra ailleurs parce qu'il a participé, il a vécu à Tunis, il a participé à des rencontres, il a été invité aux États-Unis, au Mexique, etc. Mais tout, voilà, c'est important de le dire, son ancrage. Sa semence s'est faite effectivement en Afrique, alors que très souvent les intellectuels africains et d'ailleurs l'Europe pensent que les meilleures semences se font effectivement à l'extérieur du pays, notamment quand on est francophone en France. Et c'est une rupture et c'est important. En invoquant ses études en lettres modernes puis en philosophie à l'Université de Dakar, l'auteur se range du côté des gauchistes, non sans un peu d'ironie. Dit-il, dans les années 70, le chic du chic gauchiste, c'était de se promener sur le campus de l'Université de Dakar en tenant certains livres bien en vue. Franz Fanon, Cheikh Anta Diop, Mao Tse-Tung, alors moi je me reconnais, Cabral. Avide d'idées simples et de solutions brutales, nous étions à dire vrai des jeunes gens raisonnables. Et ce qui m'intéresse encore plus chez Boubacar Boris Diop, c'est que, effectivement, c'est aussi un intellectuel engagé, mais engagé dans le sens où, dans ses propos, il y a à la fois du roman, du théâtre, de la musique, parce que vous verrez son œuvre, comment il est important, et en même temps, engagé sur le territoire, parce qu'il en parlera, mais il est associé effectivement à l'université Gaston Berger, où il anime tout un travail autour de la philosophie africaine, notamment sur la langue wolof. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est détaché des réalités. Et des fois, quand j'entends, je me dis, mais vraiment, comment il trouve cette énergie-là pour être le citoyen du monde et qu'il est ouvert à toutes les questions du monde. Et même des fois, des détails que moi, j'arrive pas à savoir d'où il les tire. Et donc ça, c'est important, c'est le fait d'avoir un intellectuel qui se dit, je suis concerné par le monde. Et en même temps, cette simplicité déconcertante pour moi, cette humilité qui me déconcerte, mais voilà, c'est comme ça les grands hommes, il paraît, voilà, on n'y peut rien. Alors, il a écrit, avant de parler de ce livre-là, il a écrit avec il a écrit Le Temps de Tamango, c'est en 1981. Il a écrit Le Serpent à plumes, il a écrit Le Tambour de la Mémoire, Les Traces de la Meute, Le Cavalier et son Ombre, Murambi, le livre des ossements sur le Rwanda, Domingolo, qu'il m'a dédicacé et qui est mon livre de chevet depuis, effectivement, j'écris de plus en plus en Wolof, Négrophobie, avec Odile Tobner et François Xavier Verchard, Cavenant, roman L'Afrique au-delà de du miroir, Les Petits de la Guenon, qui est donc Domi Golomé en français, La Nuit de Limoko, et là, effectivement, avec Aminata Draman Traoré, qui est ancienne ministre de la Culture du Mali et vraiment militante altermondialiste et intellectuelle, il signe ce document, La gloire des imposteurs, L'aide sur le mal et l'Afrique, et aussi un autre livre dont on parlera sur un soldat sénégalais qui a été vraiment au cœur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et bon, on revient sur le livre, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé de faire rapidement. On revient sur le livre. Dans La gloire des imposteurs, donc, publié chez Philippe Rey, alors là je vais prendre le « vous », après avoir dit le « tu » du frère, j'ai dit le « vous ». Vous vous interrogez avec une de vos amies intellectuelles, donc la sociologue malienne Aminata Draman Traoré, sur ce qu'il reste de la France-Afrique et sur l'impact de l'opération Serval sur la relation entre le Mali et la France. Alors ça commence comme... Ma chère Aminata, je sais que ces temps... Alors je le fais pour que vous achetez le livre, aussi c'est important. Donc je ne vais pas vous lire tout le livre, on n'aura pas le temps. Ma chère Aminata, je sais que ces temps-ci, tes compatriotes se réveillent chaque matin, le cœur étreint par l'angoisse, surtout au nord où les combats font de nouveaux rages. Les plus exposés, ce sont bien entendu les plus pauvres, comme toujours. Et surtout... Ils ne se sentent pas défendus face aux djihadistes et aux rebelles Touareg, car vos soldats mal équipés refusent le combat ou même désertent, dit-il. Tel est le triste constat que vous dressez pour évoquer la situation au Mali. Toujours dans La gloire des imposteurs, qui consiste donc à une correspondance que vous avez échangée avec la sociologue Aminata Draman Traoré, vous vous interrogez sur que reste-t-il de la France-Afrique? Quel fut l'impact réel de l'opération Serval, on y reviendra. Tous les deux, vous êtes opposés à l'intervention massive de l'armée française au Mali en janvier 2013. Vous tentez de comprendre la crise dans laquelle le Mali est plongé et qui annonce, selon vous, davantage une ferme reprise en main néo-impériale de l'Afrique subsaharienne que sa seconde indépendance. Et il vous répond, mon cher Boris, je n'ai pas besoin de te dire quel événement est au centre de toutes les discussions, le coup d'État du 22 mars 2012. Et un constat amer et dur ressort de vos constats à deux, c'est que nous ne sommes pas toujours libres de choisir nos dirigeants. Eh oui. Et on verra, c'était intéressant parce que il y a, c'est à la page 121 je crois, je vais aller rapidement, il y a un truc super, et c'est des petites anecdotes comme ça. Ou non, c'est même pas la charge 21, c'est pas la page 21. Où vous dites en fait, mais que le président a subi un attentat, il est parti en France et Aminata dit, je pense qu'ils vont le travailler au corps. Ils vont le travailler au corps. Ça signifie vraiment que la relation entre nos dirigeants africains et la France ne sont pas aussi simples qu'on le pense. Et on va revenir là-dessus. Alors, donc nous ne sommes pas libres de choisir nos dirigeants. Que la situation au Mali aurait été déclenchée apparemment parce que quelqu'un comme... aurait été déclenché parce qu'il y a des enjeux sociaux, économiques, politiques, et la question se pose quoi, mais pourquoi ils le font? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Et on nous donne des arguments et des arguments, et vous savez, aujourd'hui, avec la télévision, on l'a vu d'ailleurs avec les dernières élections, les arguments que l'on construit, Et votre livre, alors moi je laisse le suspens parce que je veux que vous le lisez, puis aussi on va en parler, mais le livre nous donne vraiment des éléments d'information précises et des détails qui nous amènent à penser la complexité devant la simplicité des mots et des analyses qui nous sont servis par les télévisions françaises et je dirais européennes. Et donc, moi j'avais envie dans un premier temps que tu nous dises un peu d'où ça vient cette histoire-là de culture, voilà, la glade, d'où ça vient.
Voilà. Mais d'abord, merci à la librairie Mola, à mes frères de l'UTSF, à Survie, à Cori. Merci, cher. Hein. Cher et moi, on a fricoté dans la même mouvance d'extrême gauche à l'époque, malgré l'écart d'âge. Et on ne se connaissait pas en ce temps-là. Mais dès qu'on s'est retrouvés à Bordeaux, évidemment, nous sommes entretenus, nous avons parlé selon les mêmes codes de ce temps-là. Et donc, voilà. Merci de cette présentation à la fois riche et très généreuse. Ce que j'aimerais dire d'abord à propos de ce livre, mm-hmm. c'est que, contrairement à ce que pourrait faire penser son titre, ce n'est pas un coup de gueule, mm-hmm. ce n'est pas un coup de sang. En fait, tout à fait le contraire. Ami et moi, cela fait des années que nous discutons. Mm-hmm. Nous initions des pétitions, nous sommes fâchés ensemble, mm-hmm. Nous avons les mêmes incertitudes, nous nous retrouvons à travers le monde, notamment à Porto Alegre, mm-hmm. au Brésil, dans le cadre du forum social mondial, mm-hmm. où elle joue un rôle extrêmement important. Concernant la partie africaine, Bamako, Dakar, Tunis, et partout. Et à un moment donné, il y a ce qu'on a appelé le printemps arabe, mmh. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et après la Libye, ensuite l'Égypte. Bon. Alors on décide de faire une espèce de mise au point. Mmh. Comme quand on prend des images et que ce n'est pas très clair, c'est trop flou, on règle l'appareil. Et pour que l'image soit nette, mmh. nous voulions comprendre tous ces événements qui semblaient vouloir nous emporter. Et donc, bon, nous parlons de la Libye. Et pendant que nous le faisons, mmh. intervient... le coup d'État mmh. au Mali, le 22 mars d'ailleurs, comme je le dis dans l'ouvrage, je me trouvais à Bamako mmh. à l'époque. Mmh. Et donc, oui, j'ai vécu ça en direct. Ami et moi, nous avons profité vraiment pour échanger sur ça. Et puis, ben, surtout, l'opération Serval. Mmh. L'opération Serval qui nous faisait comprendre que nous n'allions pas échapper, mm-hmm. Nous, les pays du Sahel, mm-hmm. À la lutte globale contre le terrorisme. Mm-hmm. Parce que le Mali, c'est ça. Ce n'est pas une crise africaine de plus. Oui, c'est une crise africaine. Il y a un coup d'État, mauvaise gouvernance et tous les problèmes que l'on veut. Mais en même temps, ça s'inscrit dans une logique internationale mm-hmm. Qui dépasse de loin mm-hmm. Le Mali. Aussi immense que soit ce pays, on a l'Algérie aux aguets, mm-hmm. La France a des intérêts là-dedans, Areva n'est pas loin, mm-hmm. à un moment donné on parle de Pakistanis mm-hmm. et d'Afghans mm-hmm. qui viennent indiquer comment il faut s'y prendre pour semer le bordel. Mm-hmm. On parle de Boko Haram mm-hmm. a fait des apparitions au Mali, mm-hmm. le Moudjahou, mm-hmm. en Sardine, etc. Bon, plus évidemment, la crise malienne mm-hmm. elle-même mm-hmm. avec le MNLA. Donc, l'affaire frappe à nos portes, mm-hmm. plus précisément aux portes du Mali. Et le Sénégal, moi qui suis là-bas, je sais que ce sera bientôt notre tour chez le coiffeur, pour le dire familièrement. Et très rapidement, évidemment, la Libye mm-hmm. Déstabilise mm-hmm. le Mali de fond en comble. La deuxième chose qui faisait que c'était important vraiment de mettre l'accent sur le Mali, ben, c'est que la voix d'Aminata Dramane Traoré est écoutée. Mm-hmm. elle est désirée dans des conflits pareils, dans une situation où le Mali est à feu et au sang, où bon, des petits farfelus manipulés par qui on sait disent à peu près n'importe quoi, sa parole était attendue. Et de toute façon, dans ce livre-là, elle avait surtout envie de parler du Mali. À l'arrivée, lorsqu'on commence le livre, on ne sait pas trop où on va.
Absolument.
Parce que oui, et d'ailleurs...
Oui, parce qu'il y a des choses sur l'immigration. Voilà. J'ai des moments super... Lisez le livre, il y a des moments super sur l'immigration clandestine. Mais, ces jeunes immigrés dans la forêt qui construisent une sorte d'unité africaine. En fait, vous cherchez et finalement, on vous arrivez vers...
D'ailleurs, il y a des lettres... Tu as raison, il y a des lettres, des écarts entre, de gros écarts entre les premières lettres. J'écris, nous ne sommes pas encore habitués à ce concept finalement assez insolite. Mais dès que les événements se précipitent, ce qu'il y a à craindre, ce n'est plus le vide, c'est le trop-plein.
Absolument.
Parce qu'on a trop à dire à propos de Serval, du Mali. Nous en comprenons l'importance. Voilà, c'est un livre par correspondance. Oui et non. Oui et non parce que nous nous envoyons des lettres. Non, parce que quand Ami m'écrit, elle sait très bien que, au-delà de moi-même, elle s'adresse à un public beaucoup plus vaste. Donc, ce sont de vraies et de fausses lettres. Pour ce qui me concerne, ce texte-là fait partie de tout un ensemble d'ouvrages que j'ai écrits après la découverte du génocide des Tutsis du Rwanda. En tout cas, en littérature au moins, en écriture au moins, le Rwanda, sans le Rwanda, je n'aurais pas écrit avec Odile Topner et Verschave, négrophobie. Le discours de Sarkozy m'aurait indigné, mais je ne m'en serais pas soucié outre mesure. Or, nous avons coordonné un ouvrage intitulé « L'Afrique à Sarkozy ». Et j'ai donné un texte là-dedans. « L'Afrique au-delà du miroir », je ne l'aurais pas publié non plus. Et également, évidemment, ce texte-là que j'ai publié le 9 janvier avec Aminata Dramane Traoré. Voilà un peu pour camper le...
Et c'est vrai que l'expérience douloureuse, l'expérience symbolique que vous avez vécue en ayant été effectivement au Rwanda va marquer en fait va carrément déconstruire des choses que vous avez vécues et va marquer votre futur. Et à mon avis, à jamais, comme un des journalistes le disait aussi sur le beau reportage, en fait, le beau documentaire qu'on a vu hier à l'Utopia. Et on le voit, c'est-à-dire les interrogations, le modèle de lecture que vous avez de la relation entre l'Afrique et la France va vraiment se fonder sur la manière dont vous allez aussi lire la complexité de ce qui s'est passé au Rwanda. Prenons le cas du néocolonialisme. Voilà, les relations France-Afrique, la question du néocolonialisme. Autour de la question de l'idéologie, hier on n'a pas développé la question de l'idéologie, la question du mensonge. Il y a des mots qu'on n'aime pas trop aujourd'hui utiliser, propagande, idéologie, rapport d'intérêt, et qui sont par contre des catégories de pensée qui fonctionnent encore. On voit comment, et moi j'aimais bien la manière dont vous avez reparlé effectivement de Kagame, on peut lui reprocher tout, mais quelqu'un qui abolit la peine de mort, on peut quand même difficilement le traiter de dictateur. Voilà, c'est important quand même. Qui, après un génocide, qui prend le pouvoir et qui abolit la peine de mort, on construit aujourd'hui tout un discours autour de lui. Et cette question de l'idéologie, j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est-à-dire que y a un débat, parce qu'on est en France, il y a un débat qui consiste à dire qu'il faut arrêter vraiment de parler de relations néocoloniales entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire que les pays francophones sont indépendants. Tout ce qui se passe, c'est de la responsabilité des Africains et des chefs d'État africains. Et les Européens, ils cherchent leurs intérêts, certes, mais ils ne tiennent pas la plume, ils ne tiennent pas l'armée, ils ne tiennent pas l'économie. C'est du ressort des Africains. Et je crois que c'est important, à la fois pour les Européens qui sont ici, mais aussi pour les Africains, parce qu'on finit aussi par intégrer ces discours-là jusqu'à ne plus avoir d'autres grilles de pensée. Donc, j'aimerais bien revenir sur, justement, à travers ce livre et puis à travers l'expérience, justement, du Rwanda, comment, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette sorte d'idéologie, de ce tissu de mensonge sur les relations France-Afrique, voilà, autour du néocolonialisme?
Alors, si on entend par néocolonialisme le fait qu'en 60, il ne s'est rien passé, on a passé le témoin, mais en fait, il n'y a pas d'indépendance. Si on entend ça, par ça, néocolonialisme, je pense qu'on est dans la caricature. Mmh. Voilà. La situation a évolué, si peu que ce soit, mais les fondamentaux, la domination sont là. Et c'est un homme politique français, d'ailleurs, qui le dit, Edgar Faure, spécialiste de S, formule à la fois bizarre et intéressante, hein, il dit, mais les indépendances pour nous, les indépendances africaines, ça consistait à quitter l'Afrique pour mieux y rester. C'est ça qu'il dit. Et voilà. Et quand on parle maintenant de... D'ailleurs, je n'utilise plus l'expression de néocolonialisme. C'est de comment la France, à la différence, je crois qu'il faut vraiment le souligner, à la différence des autres anciennes puissances coloniales, comment la France est restée dans ses anciennes possessions coloniales. Voilà. Au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout. Et quand on parle de France-Afrique, il ne faut pas s'y tromper. Hein. La France a une très forte emprise sur ses anciennes colonies, mais elle n'existe absolument pas dans le monde anglophone ou ailleurs. Donc, je pense que ce n'est pas France contre Afrique, c'est en réalité ses anciennes possessions coloniales. Il y a une relation fusionnelle, malsaine. Maintenant, comme tu le dis, ce qui fausse le débat, en France, c'est juste cette idée-là. Les gens se disent, mais écoutez, arrêtez de vous défausser sur nous. On vous a donné l'indépendance... La fameuse phrase de Gaulle, ceux qui veulent l'indépendance, prenez-la, vous êtes libre. Oui, d'une certaine façon, voilà. On a nos conseils des ministres, on a un président, drapeau, machin. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si le Niger est au niveau de l'indice de développement humain, le 187e pays sur 187, malgré... ces riches réserves en uranium, c'est la France-Afrique qui a l'œuvre. Il y a une logique de prédation économique. Les compagnies françaises qui, avec Wad, quoique j'ai jamais aimé Wad, et Dieu sait si j'ai écrit pour le critiquer, qui avaient été en perte de vitesse pendant ces 10 ans-là, sont revenus en force et ont repris tous les marchés. C'est pareil pour Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, il y a une économie que l'on contrôle et une grande partie la principale raison de Serval, c'est aussi, comme vient de le dire d'ailleurs Romain, mais très précisément la sécurisation des ressources au Niger. Et de plus en plus, ça se dit, Kidal, moi je n'arrivais pas à comprendre, c'est tellement énigmatique pour moi, Kidal est elle-même... voilà, cet espace lui-même comprend de riches réserves pétrolières ou gazières, je ne sais plus. Mais je l'ai dit hier, donc je ne vais pas insister là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des ressources. Il s'agit aussi de... du rayonnement de la France à travers sa langue. Il s'agit de toutes ces voix qui votent selon la demande de la France sur la scène internationale, en particulier à l'ONU. Et donc ça, ça justifie, on ne va pas trop s'arrêter là-dessus, ça justifie la position de la France sur la scène internationale. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si elle s'est retrouvée en complicité de génocide au Rwanda, c'est parce que au-delà du Rwanda, c'est tout un système qu'il ne faut pas laisser s'effondrer. Si ce qu'ils appelaient à l'Élysée une guérilla anglophone venue d'Ouganda prend possession du Rwanda, ça veut dire que la protection de la France ne vaut plus. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut simplement que ces pays-là vont nous échapper. Et donc, je préfère maintenant, moi, parler de France-Afrique plutôt que de néocolonialisme. Et ça aussi, je le dois au Rwanda. C'est un cas d'école. Ben, vous savez, on est jeune, on a lu Lénine, Mao Tse-Tung, machin, sans avoir d'ailleurs forcément bien compris. Et puis on répète, etc. À bas le néocolonialisme, à bas l'impérialisme. C'est très abstrait. Voilà, on s'inscrit dans une, comment dire, dans une espèce de rébellion idéologique planétaire. On est très, très content. Il faut bien que jeunesse se passe. Mais après, voilà, c'est abstrait, quoi. C'est juste des mots. Pas tout à fait, mais enfin, c'est vraiment souvent des mots. Après, maintenant, mais le Rwanda, voilà, c'est du sang, c'est la mort. C'est aussi la possibilité que, en fait, un pays comme le Sénégal, quand moi je me bats pour le Rwanda, je me bats aussi pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais voilà, parce qu'après tout, qu'on se souvienne, ce film que personne n'aime, pour de très bonnes raisons, souvent, Hôtel Rwanda. Vous y avez un épisode historique avéré, qu'on retrouve dans tous les livres d'histoire du génocide. À un moment donné, toutes ces personnes sont réfugiées à l'hôtel des Mille Collines et là-bas, il y a les 5 enfants de la première ministre. Il y a vraiment des gens que veulent tuer les Interahamwe, les miliciens. Et puis, mais ils se dirigent vers cet hôtel. Et le directeur de l'hôtel appelle l'Élysée. Et c'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, Bruno Delay, pour ne pas le nommer, de l'Élysée, mais qui appelle Bizimungu, qui lui dit, mais arrête tes gens, ils ne doivent pas aller dans cet hôtel. Il y a aussi des Occidentaux, évidemment. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un point de vue strictement humain, je pense qu'on aurait pu, à partir de Paris, des centres de décision, on aurait pu sauver des dizaines, voire des centaines de milliers de Rwandais, et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait et parce que la vie des autres, ça ne compte pas, surtout si les autres, ce sont des Africains que l'on a identifiés, labellisés, ennemis venus d'un pays anglophone. Et donc oui, il ne faut compter sur personne. Pour survivre, il ne faut compter sur personne pour sa sécurité. Alors ces questions-là, ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin d'avoir lu Mao Tse-Tung, d'avoir lu Lénine, de savoir ce que Fanon et Che Guevara racontent sur tout ça. Ces questions-là, c'est vraiment des questions au plus près du réel. Ce sont des gens qui perdent la vie ou qui ne la perdent pas. Et je ne vois pas pourquoi, si au Sénégal, les intérêts français l'exigent, ce pays se soucierait de la vie de mes enfants ou de mes petits-enfants. Donc c'est une affaire personnelle. Et donc voilà. Oui, c'est ça.
Et on voit en même temps comment ce processus de la France-Afrique, devant la froideur de la politique pour être aux intérêts de l'économie, est aussi accompagné d'éléments symboliques. Je reviens d'ailleurs sur la question du contournement de soi pour qu'on y revienne. Mais voilà, elle dit, voici pour la mémoire et pour l'histoire ce qu'il déclara à cette occasion en parlant de Modibo Keïta le 20 janvier 1971, qui va ordonner le 20 janvier 1961 le départ des troupes françaises du pays, du Mali. Et Modibo Keïta va dire, L'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 octobre 60 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dissolution de la Fédération du Mali. Et donc elle dit, en fait c'est aussi symboliquement une revanche. Cette opération Serval est aussi une revanche symbolique de la France sur cet affront que la France a subi de Modibo Keïta. Donc il y a aussi cette il y a la question donc de symbolique, mais il y a aussi la question de la langue qui amène à travers ce qu'on peut appeler aussi une sorte d'impérialisme culturel à ce que les Africains ne pensent plus par eux-mêmes. Et donc la solution, l'alternative que tu nous donnes, c'est de réfléchir sur le contournement de soi-même. Voilà. Mm-hmm. Ces deux choses-là, j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements.
J'aimerais préciser, quand moi je parle ou quand on parle de la France-Afrique, il ne s'agit pas à proprement parler de la France et de l'Afrique. Mm-hmm. Je pense que nos deux peuples, comme la plupart des peuples de la Terre, n'ont pas de problème. Mais il y a une certaine ingénierie politique, on fait fermenter un certain nombre d'idées malsaines, et cela donne le résultat suivant. La France-Afrique, je dis toujours que c'est un animal à deux têtes, une tête à Paris et une dans chacune de nos capitales. Ça veut dire que, en fait, les citoyens français n'ont rien à voir là-dedans. Les citoyens sénégalais ou ivoiriens n'ont rien à voir là-dedans. Ça se passe par-dessus leur tête. Et évidemment, ici se pose, c'est quand on est cartésien, la question qu'on dit, mais pourquoi ils se laissent faire ? Pourquoi ils ne se battent pas ? Eh bien, ce n'est pas aussi simple, parce que des résistants, je ne parle même pas d'avant, à partir des années 60, il y en a eu. Que ce soit Lumumba, Sankara, Modibo Keïta, justement, ça qui m'a rappelé ça, que tu viens d'évoquer, et Cabral, Sékou Touré. Sékou, lui, il a été éliminé politiquement. Il était devenu presque fou à la fin. Mais tous les autres ont été exécutés. Mm-hmm. Et je mets Modibo Keïta dans le lot. Vous voyez, parce qu'on l'a envoyé justement à Taoudénite et là-bas, on l'a maltraité et il est mort en détention. Lumumba, on sait, Sankara, Cabral. Donc il y a des résistances et ça pose la question fondamentale de la souveraineté. C'est que, en fait, c'est une question de rapport de force. Mm-hmm. Voilà. C'est une question de rapport de force qui ne nous est pas favorable. Et pourtant, on peut dire que la situation est en train de changer. Mm-hmm. Puisque finalement, lorsque un soir d'octobre 90, Habyarimana appelle Jean-Christophe Mitterrand à l'Élysée pour lui dire, voilà, le FPR a déclenché une offensive, voilà, on veut de l'aide. Très paresseusement, en présence de l'historien Gérard Prunier qui le raconte, Jean-Christophe Mitterrand dit à Prunier, ouais, c'est le vieux père Habyarimana qui vient de m'appeler. On va lui envoyer quelques bidasses et cette affaire sera réglée en moins de 3 mois. Ça a été l'opération Norrois. À l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Mais aujourd'hui, la France est beaucoup moins à l'aise pour intervenir sur le continent africain. Pourquoi ? Parce que quand même, lorsque vous comparez, moi j'aime bien cette comparaison, l'Angleterre n'est jamais intervenue dans ses anciennes colonies, jamais. Et lorsque vous comparez avec la France, Sangaris, c'est sa 50e intervention. Et je crois que, voilà, alors, comment traiter cette question ? La France intervient en Afrique parce qu'elle est la fille aînée de l'Église, la patrie des droits de l'homme. Elle ne supporte pas que ses anciens colonisés souffrent. Et donc, elle intervient pour les aider, comme au Mali. Voyez, ça, on peut donner cette réponse. Et malheureusement, on l'entend si souvent, évidemment, de façon plus sophistiquée, plus subtile, mais c'est à peu près ça. Mais on peut aussi, de façon très simple, raccorder ça à une certaine volonté de puissance, au désir de survivre à la mondialisation, de tenir son rang en prenant les ressources de nos États. Et pour moi, c'est cela la bonne réponse. Mmh. Mais en même temps, il y a une fin à tout. Et j'insiste sur la question de Modibo Keïta, qui demande aux troupes de partir, comme le raconte si bien Aminata dans le livre. Ces troupes s'en vont, et Serval, c'est un peu la revanche. Et après Serval, on a voulu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire officialiser l'intervention, en fait le retour, quoi, avec des bases militaires, etc., des salites et compagnie. Dans un premier temps, Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne s'est d'ailleurs pas senti assez curieusement obligé à une immense gratitude à l'égard de Hollande, parce que ce n'est quand même pas un naïf Keïta. Dans un premier temps, il a accepté, mais la société malienne n'a pas voulu. Et Survie, dont vient de parler d'ailleurs Romain, Survie a initié une lettre que le président de Survie, Fabrice Tarit, a signé, un philosophe malien, Issa Ndiaye, et moi-même, pour dire nous sommes contre le retour des bases françaises au Mali. Et depuis lors, la situation est en l'état. Mm-hmm. Et on ne semble pas se diriger vers ce retour, puisque depuis deux semaines, samedi ça fera exactement deux semaines, depuis deux semaines, la tension est très vive à Kidal, et les soldats français sont pris à partie. Pas physiquement, mais sont quand même pris à partie.
Ce qui contraste avec les images qu'on nous montrait des libérateurs.
Et je me suis rendu compte en parlant avec 50 soldats quand même maliens ont été tués, 8 fonctionnaires ont été tués au combat, 8 fonctionnaires ont été proprement égorgés par le MNLA. Et oui, personne n'en parle ici, parce que Serval, c'est une très belle histoire, mais en réalité, ça ne fait pas deux semaines. Et voilà, maintenant, la société civile malienne parle de boycotter les produits français. Voilà, lister des trucs, des etc. Donc, voilà, ce n'est plus la belle histoire d'amour. Et comme évidemment ici la situation est assez compliquée, pour utiliser un euphémisme, on ne va pas en rajouter en disant qu'au Mali non plus ça ne va pas très bien, parce que c'était fait finalement, quand on écoute Hollande, on a l'impression qu'il a été élu pour monter l'opération Serval et s'en glorifier. Mais en fait, c'est une poudrière. Et ce qui se passe à le fait que le régime malien résiste à Paris, le fait que la société malienne soit en train de se rebeller, le fait que d'ailleurs partout sur le continent les choses soient moins faciles, ben, ça veut dire que avec le renouvellement des générations, avec l'ouverture du monde politique international, avec de nouveaux acteurs, il faut bien prendre en compte, bon, avec le fait que voilà, trop c'est trop, quoi. Ça doit s'arrêter. Et donc, il y a, je pense, bon, les prémices d'une libération. Je ne dis pas que c'est demain la veille, mais enfin, je pense qu'on est dans la bonne direction et qu'il faut continuer à résister. Et ces résistances sont individuelles, c'est les intellectuels, quelques hommes politiques, etc. Il ne faut pas lâcher plus.
Justement, sur les questions de résistance, ou ce qui peut freiner la résistance, c'est ce que vous appelez dans votre réflexion le contournement de soi-même. Oui. Et, voilà, et ça s'adresse finalement aux Africains. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui liront le livre de...
C'est extraordinaire. J'utilise cette expression en tant que disciple de Chekanta. Voilà. Il ne parlait pas de contournement de soi-même. Moi, j'étais avec lui, j'étais dans son voilà, nous avons quitté nos mouvements, machin, pour aller nous retrouver dans le parti qu'il avait créé, le Rassemblement National Démocratique, le RND, et il nous parlait tout le temps de ce qu'il appelait la reconquête de soi. Et c'est cette expression de Cheikh qui m'a permis quoi, d'ouvrir les yeux, de voir à quel point, vraiment, partout. Moi, j'ai vécu 2 ans au Mexique, c'était pour m'intéresser à la conquista, à la conquête. Alvarado, Hernán Cortés et tous ces gens-là, Pizarro, comment ils ont fait. Eh bien, mais c'est pareil. Quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dominer un peuple si vous ne lui faites pas douter de lui-même, si vous ne lui faites pas douter de ce qu'il vaut. Et lorsque vous entendez les intellectuels africains, en fait, cette complicité avec celui qui vous a servi, ça passe par des arguties intellectuelles à l'infini. Le refus de s'exprimer clairement, voilà, le refus de s'exprimer clairement, et finalement, on trouve des excuses aux autres. Et moi, j'ai fait un enseignement dans une université américaine, et on m'avait demandé de choisir mon truc, et j'ai intitulé ce que je faisais avec les étudiants, ce séminaire, « L'afropessimisme, actualité et enjeu ». L'afropessimisme, c'est cette idée que, ouais, ben, vous savez, 12 autres Africains, nous sommes comme ça. Comment ? Non, on ne va pas y regarder de près, nous sommes comme ça, voilà. Comme ça, ça on sent que ce n'est pas très bien, mais dans le détail, on ne va pas. Bon, à un point tel que ce continent qui est immense, mais on le réduit à une espèce de village. Je crois qu'un Kenyan a écrit un livre intitulé « L'Afrique n'est pas un pays ». Le seul ex-Zaïre, la RDC, a la même étendue que toute l'Europe occidentale. C'est dire l'immensité, un seul pays, hein, toute l'Europe occidentale, c'est dire l'immensité du continent. Et quand il se passe quelque chose au Botswana, au Libéria, au Gabon, en Mauritanie, etc., ben, c'est à peu près la même grille de lecture. Et le Rwanda nous a échappé, parce qu'il faut bien dire que les Africains, hier, ne se sont pas intéressés à ce qui est arrivé au Rwanda. Ils ne s'y intéressent pas davantage aujourd'hui. Mais c'était la même idée. Parce que c'est ce que certains appellent de l'autoracisme. On intériorise les préjugés racistes qui vous asservissent. Et c'est ça le contournement de soi. Je vous assure, quand je parle du Rwanda au Sénégal, oui, parfois, bon, voilà, t'as envie de te mettre sous la table. Quoi. Les gens, 20 ans après, ils n'ont rien compris. Oh, si, ils ont parfaitement compris. Ils ont compris que nous sommes comme ça. Et que ça s'est manifesté au Rwanda. Voilà. Quels sont les mécanismes à l'intérieur de la société rwandaise, qu'est-ce qui fait que le Rwanda, c'est quand même pas le Libéria, etc., etc. Ça n'intéresse personne. Et regardez une bibliographie sur le génocide des Tutsis du Rwanda, vous trouverez tout le monde, des Américains qui sont très bien, des Français qui sont magnifiques, ça il faut le dire, hein. Vous trouverez des Belges, des Hollandais, vous ne trouverez pas. Oh, il y a des voyous aussi, hein, comme, comment il s'appelle, la Payan et compagnie, ça c'est vrai, hein. Mais quand même, c'est vraiment du très beau travail. Mais vous ne trouverez pas les intellectuels africains sur ça. Mais le contournement de soi, c'est ça aussi. Voilà.
Absolument. Juste pour terminer, vraiment pour vous amener dans le livre, à la conclusion, quelques extraits. Reprocher aux Africains en général de ne pas résister aux injustices qu'ils subissent est encore une fois aussi injuste que d'en faire porter la responsabilité aux Occidentaux en général. Perdre cela de vue, c'est s'exposer, pour m'en tenir à cet exemple, à ne rien comprendre à l'intervention militaire de la France au Mali ou à son histoire d'amour avec une poignée de rebelles touaregs. Les temps ont été difficiles, mais aujourd'hui, 2 ans après la mort de Kadhafi, les yeux se sont ouverts. Il a fallu encore moins de temps pour prendre toute la mesure de la parfaite imposture néocoloniale qu'est l'opération Serval. Aujourd'hui, dans ton pays, le Mali et à l'étranger, de plus en plus de tes concitoyens t'avouent mieux saisir les enjeux de cette guerre française sur le sol malien, symbolisée par l'accès de fixation qu'est Kidal. C'est un immense bonheur pour toi. Nous avons eu l'occasion avec cette correspondance de mettre les choses au point. Tu en avais sans doute encore plus besoin que moi, ainsi que tu me l'as d'ailleurs écrit un jour. Parce que c'est vers le Mali que convergent depuis bientôt 2 ans les regards du monde entier. En nous parlant, grâce à notre vieille complicité, nous avons aussi essayé d'ouvrir les portes du dialogue à tous ceux qui voudront bien nous lire sans parti pris. J'espère qu'il y aura parmi eux beaucoup de jeunes Africains comme Samburu, Sekou et Gassama. J'ai aimé découvrir au fil de tes courriers vos échanges passionnés et féconds. C'est ainsi que se met en œuvre ce que tu appelles si souvent ta dette de sens envers les nouvelles générations. Je peux faire aisément mienne cette ambition. Je ne t'ai en effet jamais écrit une seule lettre sans sentir quelqu'un en train de la lire par-dessus mon épaule. Ces silencieux lecteurs nocturnes, ce sont les nombreux jeunes avec qui je suis en discussion depuis des années. J'ai leur nom sur le bout de la langue, mais ils se reconnaîtront et il me suffit de dire ceci. S'il est vrai que mon avis compte pour eux, le leur m'importe plus que tout autre. Je vous vraiment confie à lire ce livre. Et on remercie encore une fois de plus donc, la librairie Mola, les associations Survie, l'association de l'Union des travailleurs sénégalais en France, Coury, et tous les autres qui ont participé à la venue de notre cher invité. Et puis à vous toutes et tous qui avez passé un moment avec nous. Je vous remercie et à bientôt avec l'auteur. Merci beaucoup. Merci.